La dignité humaine est une valeur universelle. Disons non à la torture et au mauvais traitement. La torture est une atteinte à la dignité humaine. La loi congolaise interdit et punit la torture et les mauvais traitements sous toutes leurs formes. Alors, disons non à la torture partout, tout le temps et pour toujours. Ceci est un message du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme à l'occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, célébrée le 26 juin de chaque année.
Merci d'être à l'écoute du magazine de la vie au quotidien, Okapi Service, comme je l'ai annoncé. Aujourd'hui, nous parlons des mécanismes de résolution pacifique des conflits. Vous savez, les conflits communautaires sont récurrents en République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du territoire des Djougou en Ituri qui fait face à un conflit causant des pertes en vies humaines et des pillages des biens, des valeurs, des paisibles citoyens dans cette partie du pays. Par ailleurs, des problèmes politiques peuvent aussi occasionner des affrontements. C'est le cas, ce qui est arrivé dernièrement entre les jeunes des deux regroupements politiques. Il y a eu des affrontements, des blessures, des casses également ont été enregistrées. Alors, quels sont les mécanismes pacifiques des résolutions des conflits qui peuvent arriver, que ce soit des conflits communautaires ou autre type de conflits? Eh bien, notre invité, professeur Nopes Kipiswa, qui est expert en analyse et résolution pacifique des conflits, va répondre à toutes vos préoccupations. N'attendez pas les dernières minutes, appelez déjà au 081-890-63-94. Professeur Nopes Kipiswa, encore une fois, bonjour.
Rebonjour, mon frère.
Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes expert dans les questions d'analyse et des résolutions pacifiques des conflits. D'abord, la première question est de savoir, c'est quoi un conflit?
Merci beaucoup pour l'invitation. Et je suis heureux de constater que la vie au quotidien de Radio Okapi s'intéresse à cette question qui est en réalité notre vie de tous les jours. Le conflit est une réalité permanente dans notre vie. Il faut que vous le sachiez. Et un conflit, c'est quoi? C'est simple. C'est toute divergence qui peut être perçue ou réelle. C'est aussi une mésentente, mais qui peut évoluer en lutte. Donc, ça veut dire qu'il a dépassé l'étape de simple divergence, de simple désaccord, et ça devient une lutte, une bagarre, entre une confrontation entre deux, trois ou plusieurs personnes, et il a plusieurs niveaux, le conflit, à plusieurs niveaux. Il y a au niveau individuel, interpersonnel, ça s'appelle micro-conflit. Il peut exister un conflit, une divergence, un désaccord entre deux groupes. Les groupes peuvent être des tribus, des groupes, des associations de jeunes et consorts. À ce moment-là, on appelle ça méso-conflit. Et il peut être un conflit, un désaccord entre deux nations, des États. Alors, il s'appelle macro-conflit ou conflit international ou interétatique. Il peut être également un conflit entre deux civilisations. Vous avez, par exemple, la plupart des fois, vous entendez les Arabes et les Occidentaux en bagarre. Et bon, les noirs et les blancs en bagarre. Bon, ça s'appelle méga-conflit.
Voilà, méga-conflit. Donc, il y a plusieurs types de conflits.
Il y a plusieurs types de conflits, plusieurs niveaux de conflits.
Oui.
Et il faut savoir se positionner au niveau de ces conflits-là pour chercher des solutions à ces conflits. Si vous vous positionnez à un mauvais endroit, au mauvais niveau, vous pouvez trouver des solutions inadéquates. Et donc, le conflit, c'est ce désaccord-là, cette divergence-là, qui peut être réelle ou perçue, mais qui peut être aussi consciente ou inconsciente. Donc, Kibiswa et Kachama, nous pouvons être en conflit. Moi, je sais que nous sommes en conflit, mais toi, tu n'en as pas conscience. Et vice-versa. Et tout cela, si vous le permettez, nous allons découvrir tout cela.
Et comment se manifestent les conflits?
Le conflit se manifeste de diverses manières. Il n'y a pas une seule manière. Et c'est là, comme je disais, notre vie est faite des conflits. Et que ce soit dès que seulement deux personnes se rencontrent et commencent à marcher ensemble.
Il y a probabilité d'avoir...
Pas probabilité, le conflit est là.
Le conflit est déjà là.
Il est là. Il est dans le regard.
Oui.
Le fait seulement qu'il y a quelqu'un qui peut savoir que quand ce papa-là ou cette personne-là regarde comme ça, c'est que quelque chose ne va pas. Déjà, il y a une manifestation. Le regard seul peut déjà signifier qu'il y a conflit. Une attitude, ça peut être, par exemple, une figure un peu renfrognée ou un mouvement de lèvres ou un geste. Un geste peut être une manifestation du conflit. Mais les manifestations pires...
Quand on en vient aux armes, aux tueries...
Là, et alors, il faut dire que les armes, ça devient l'extrême. Ça, la manifestation extrême, par exemple la guerre, c'est la manifestation extrême des conflits. Mais il y a plusieurs manifestations, plusieurs types de manifestations.
Souvent, l'UNESCO dit que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes.
Voilà.
C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix.
Exactement.
Qu'est-ce que cela veut dire?
Ah, cela veut dire tout simplement que, comme l'a dit l'apôtre Jacques, et permettez-moi d'aller dans ce sens-là,
oui.
Il dit d'où viennent les conflits? Il répond en disant, c'est dans nos cœurs. Où se trouvent nos passions? Où se trouvent nos ambitions? Et lorsque nous les gérons mal, nous les dirigeons mal, eh bien, ça y est, le conflit est là. Et donc, c'est dans le cœur qu'il faut chercher d'abord comment s'adresser au cœur, aux esprits des gens. La personne humaine étant l'unité statistique numéro 1 à laquelle il faut s'adresser, vous êtes sûr, si vous avez gagné une âme en résolution pacifique des conflits, vous êtes en train de gagner toute sa communauté, vous êtes en train de gagner toute sa nation et pourquoi pas toute sa civilisation. Parce que je vous ai dit qu'il y a méga conflits entre civilisations, il y a macro conflits entre États et ceux qui dirigent les États, ce sont les individus. Nous avons aujourd'hui Félix Tshisekedi, nous avons à côté, nous avons Paul Kagame. Si dans les deux cœurs, nous nous adressons à leur cœur pour que ça change, nous sommes sûrs qu'il peut y avoir un effet d'entraînement des deux États dans la direction de la paix ou de la guerre.
Donc on peut dire que dans les mécanismes des résolutions, il faut toucher les cœurs des gens.
D'abord, il faut regarder comment, au niveau micro, individu, on peut agir. Ensuite, on regarde, comme si nous pouvons avoir 2, 3, 4, nous avons des alliés de la paix dans chaque communauté, et à ce moment-là, nous pouvons être sûrs que nous avons planté des grains dans ces communautés, dans ces états, dans ces civilisations, pour arriver à la paix.
Quels sont les mécanismes de résolution pacifique des conflits? On en parle aujourd'hui avec le professeur Nopes Kibiswa, qui est expert en analyse et résolution pacifique des conflits. Crispin nous appelle des Lubumbashi. Jérémy est également dans la même ville. Et nous avons Jonas, qui est en ligne depuis Kananga. Vous voulez participer à cette émission? Composez le 081-890-6394.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Quels sont les mécanismes des résolutions pacifiques des conflits? Crispin de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour journaliste, bonjour à l'invité, bonjour également à tous les meilleurs auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question, Crispin?
Merci beaucoup pour la chance que vous m'accordez pour la journée d'aujourd'hui. Vraiment, la thématique d'aujourd'hui est très importante pour moi. J'ai juste une seule question à poser à notre invité.
Oui.
Comme il est difficile dans la vie courante d'éviter des problèmes, mais il faut savoir quelles sont les résolutions que nous pouvons adopter à chaque fois qu'il y a eu des problèmes. Ici, à Lubumbashi, où la ville où je vis, il y a un problème tel que, il y a une slogan, je viens de Dikassa Central. Et lorsque vous êtes devant un Lucha, par exemple, il y a des slogans, on peut vous dire que vous êtes, que juste un Kassai, hein, ou soit qu'on dit qu'il est un Kassai. Et souvent, ce terme-là, ça crée, ça choque, ça crée des conflits, hein, entre le Lucha ou les Kassaiens, hein, qui résultent sur la même ville. Et souvent, ça crée des problèmes, des troubles, des agressions, des fois, il y a même des morts d'hommes à cause de ces slogans. Et par rapport à cela, je voulais te poser la question à notre invité. Si il arrivait qu'on lui propose de tels propos, par exemple, on lui dit qu'il est chachaïen et comme ça fait mal, quelles sont les résolutions? Parce qu'à des fois, on ne parvient pas à surmonter cette expression-là, ça nous fait mal. C'est ça la préoccupation pour la journée
d'aujourd'hui. Et pourquoi le fait qu'on vous appelle kassaïen doit vous faire mal? C'est une injure ou c'est, vous êtes kassaïen, vous l'êtes?
Oui, oui, on l'est, nous le sommes bien sûr, mais une fois qu'on vous dit que vous êtes Kassai, hein, c'est-à-dire, on vous dit que vous n'êtes pas Kassai, on vous dit que vous êtes Kassai, c'est-à-dire c'est quelqu'un sans maturité, quelqu'un sans personnalité, quelqu'un qu'on peut chosifier, oui. Quelqu'un qui n'a plus de valeur. Hein, donc ça fait mal, il y en a qui supportent, il y en a aussi qui ne parviennent pas, qui n'ont pas une carrière pour supporter cette expression.
Et souvent, d'accord, et puis ça peut conduire à des conflits. D'accord, ouais. Merci. On va accueillir Jérémy de Lubumbashi, bonjour. Jérémy, vous êtes aussi à Lubumbashi? Vous êtes là? Il n'est plus là. On va accueillir Jonas de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel, bonjour également à l'invité et à tous les auditeurs de Radio Capi.
Quelle est votre préoccupation?
Merci, M. Jody. Il y a ici à Kananga l'ONG des droits de l'homme, Réseau Jeunes dans le monde pour la paix, RJMP en sigle. Cette ONG a tendance à organiser des formations pour former les jeunes en matière de résolution pacifique des conflits, et plutôt des conflits et résolution pacifique des conflits légalisés et puis monitoring des droits de l'homme ainsi de suite. J'avais eu le privilège de participer par deux ou trois fois dans cette formation et j'avais retenu quelque chose, notamment avant de savoir comment les mécanismes pour résoudre les conflits, il faut d'abord savoir comment naissent les conflits chez les gens.
Oui, le professeur a expliqué, écoutez Jonas, professeur a expliqué oui. Comment les conflits naissent dans les esprits des gens. Alors, quelle est la question que vous lui adressez directement?
Oui, oui, bon, merci. Alors, j'allais résumer une anecdote, mais je passe. Nous avons par exemple dit qu'il y a la médiation comme mécanisme, il y a le dialogue, il y a également la négociation. Mais il y avait eu un conflit qui était né au Kassai Central, qui a fait beaucoup de morts et de dégâts, vous en comptez quand même.
Kamuinansapu, oui.
Mais à savoir comment ce conflit était né, je vais demander à l'invité, il connaît quelque chose, mais comment la province, plutôt le pays, a beaucoup d'experts en matière de raisons faciles de conflit. Mais qu'est-ce qui avait fait que ce conflit puisse... donc, prenait, il y a eu cette léthargie, et puis, il y a eu des morts, il y a eu tout ce qu'on a déploré. Comment on n'a pas utilisé tous ces mécanismes pour résoudre ces conflits avant qu'ils ne viennent, qu'on a déploré après tout ça. Et puis, il y a certaines personnes, donc, par exemple, vous avez opté pour le dialogue. Deux personnes se disputent, mais vous vous interposez comme troisième personne afin de les séparer. Mais il y a quelqu'un qui n'accepte pas les dialogues ou qui n'accepte pas la médiation. Quelle stratégie peut-on utiliser pour amener celui-là ou celui-là à accepter l'un des mécanismes afin de résoudre pacifiquement le conflit? Voilà, M. Jody, ce que je pouvais dire, mais j'en ai encore autre chose à dire.
D'accord. Merci, Jonas. Merci, Jonas de Kananga. Arsène, vous êtes à Kigali, au Rwanda. Bonjour.
Oui, bonjour. Directement, je pose notre question de savoir, bon, nous voyons aujourd'hui, parce que c'est le thème de notre émission pour cet avant-midi, parce qu'on a senti les préambules. Il y a eu des jeunes des partis politiques qui se sont affrontés. Alors, je demande à notre invité là au studio. Aujourd'hui, c'est sûr, nous connaissons que ce sont les accords de l'EMERA qui nous ont amené RCD, CNDP et M23 aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore les accords entre PPRD et IDFS. Si par exemple le président Tshisekedi ne respectait pas les accords qui ont été signés, parce que ce sont les accords, ça ne peut pas vous amener encore des conflits, parce que quand on signe un accord, on suppose qu'on doit les respecter. Est-ce que ça ne peut pas vous amener encore des conflits par rapport à ce que Laurent Désiré Kabila a effectué pour les cas du Rwanda avec les accords de l'EMERA? Il n'a pas conclu, ça aboutit à sa mort, et ça aboutit à M23, fin de paix, et aujourd'hui nous connaissons la situation. Est-ce que on ne peut pas nous amener encore dans des conflits pareils si le président Tshisekedi ne respecte pas les accords du FCC? C'est ça ma question.
Merci bien, Arsène de Kigali. Jérémy Mwamba, vous êtes à Lubumbashi. Nous parlons des mécanismes de résolution pacifique des conflits. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour également à l'invité avec vous. Je pense que en cette matière des conflits, il y a bien des matières, surtout dans notre pays où les conflits se portent vraiment parfaitement bien. Alors, je trouve qu'il y a des conflits dans tous les secteurs dans notre pays. Moi, ce qui m'attire plus, c'est des secteurs un peu politiques et voire même parcellaires.
Oui, Jérémy, c'est évident que les conflits sont là. Maintenant, comment les résoudre?
Ah oui, il y a beaucoup bien de paramètres pour pouvoir résoudre les conflits. Je pense que c'est quelque chose d'abord, les parties qui sont en conflit se mettent d'accord sur des principes et sur des points, et question de pouvoir dégager les divergences et trouver un point commun. Lorsque les divergences sont dégagées et qu'on se met sur un même point, et on peut marcher ensemble et on peut se diriger vers une même direction, et là nous pouvons trouver des résolutions. Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, c'est quoi? Je crois que
Jérémy, désolé, la communication se détériore. Désolé, on peut plus continuer dans ces conditions-là. Mais merci, on a quand même retenu l'essentiel de votre pensée. Professeur Lopez, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les personnes qui ont posé de questions. Et je voudrais, avant d'aller à leurs questions, revenir sur les sources des conflits pour que nous nous comprenions. D'abord, les termes « cause des conflits », nous l'aimons beaucoup parce que c'est le plus facile. Il est difficile d'utiliser une relation directe de cause à effet entre deux faits et les limiter en disant c'est ces faits ici qui est la cause de tels conflits. Un conflit a toujours plusieurs causes et il faut considérer que ce que les gens appellent cause, c'est mieux de dire facteur.
Les facteurs qui favorisent
les conflits. Les facteurs qui conduisent au conflit.
Au conflit, oui.
Parce que quand vous dites cause des conflits, bon, on peut croire qu'on peut seulement
avoir une seule cause et pourtant, il y a plusieurs éléments.
Un conflit a toujours plusieurs causes qui s'enchevêtrent et produisent le conflit. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, quels sont ces éléments-là?
Ces facteurs-là.
Quels sont ces facteurs-là? Ils sont des milliers. Mais le plus évident, ce sont les besoins et les désirs des humains. Les besoins et les désirs. La nature humaine a des besoins et des désirs.
Ça peut être des querelles autour d'une terre.
Exact.
Entre telle tribu et telle autre tribu.
Voilà.
Et des querelles autour de la gestion des terres.
Il y a des besoins à plusieurs niveaux.
Oui.
Il y a des besoins élémentaires. Il y a des besoins secondaires, ainsi de suite. Les besoins d'être et les besoins d'avoir. Quelqu'un veut être et il veut aussi avoir. Quand les deux se combinent, il y a la bagarre qui peut arriver. Mais l'élément important, c'est le fait que lorsque vous voulez, et là je commence à répondre à l'une des questions, lorsque vous voulez traiter un conflit, je vais également donner une nuance là parce que nous parlons un peu plus de résolution, mais je vais y aller.
Oui.
Laissez-moi d'abord dire, lorsque vous voulez traiter un conflit, la première chose c'est la volonté. La volonté de traiter ce conflit-là.
Toutes les parties en conflit doivent manifester cette volonté.
Volonté. D'abord la volonté. Ensuite, il faut savoir par où commencer. Vous pouvez avoir la volonté, mais vous commencez à un mauvais endroit, vous allez maintenant
envenimer la situation.
Oui. Voilà, vous allez envenimer la situation. Mmh. Donc, volonté et savoir par où commencer, c'est-à-dire avoir une certaine dextérité. C'est pour cela que c'est nécessaire que chaque personne, dès la famille, dès le bas âge, nous devrions apprendre à nos enfants comment résoudre pacifiquement les conflits. Et quand on dit résolution pacifique, c'est un peu vague, mais la réalité c'est la résolution utile. Comment vous pouvez résoudre un conflit pour y trouver des solutions mutuellement avantageuses.
Quelqu'un a parlé de la médiation, du dialogue.
Exact,
tout
ce
ça.
Ce sont des mécanismes.
Des mécanismes.
Et lorsque vous ne savez pas les utiliser de manière avantageuse, pour les deux, les conflits vont demeurer.
Alors, exemple précis, professeur.
Bien, nous avons, pour ne prendre que la situation, par exemple, de Emma...
Elendu, à Djougou, en Ituri.
Dans l'Ituri. Mm. Mais vous voyez que ce conflit est toujours là. Il est toujours là depuis plusieurs décennies. Il est là. Mais est-ce qu'on ne l'a jamais... On n'a jamais essayé de le résoudre? Bien entendu, on l'a essayé. Mais les résolutions ou les solutions qui ont été trouvées n'étaient pas mutuellement avantageuses. Il faut penser à une étape la plus importante, c'est comment transformer les conflits, les sources des conflits, en opportunité de développement entre les deux communautés.
Certains pensent qu'il y a des gens qui sont dans l'ombre en train de tisser, de tirer les ficelles,
ils seront
à
fuser
les feux. Ouais.
Ils seront toujours là, ces gens-là,
oui.
Parce qu'ils font partie de la communauté, des communautés.
Mmh.
Ils seront toujours là. Mais si vous mettez en place des mécanismes de transformation des sources de ces conflits-là en opportunités de développement entre les deux groupes, progressivement, là où il y avait, on se rencontrait pour se bagarrer, on va dire, oh, mais au fait, on peut faire ceci, on peut faire cela, mmh. et ainsi de suite, et on avance petit à petit. Mais, Kamwena Nsapu, même chose. On peut ne pas résoudre les conflits, mais il faut trouver comment d'abord identifier les sources de ces conflits-là et comment transformer les sources de ces conflits-là en opportunités de développement entre les communautés. Et là, je voudrais alors dire qu'il y a quatre types de traitements de conflits, essentiellement. Mmh. Il y a la prévention, il y a la gestion, il y a la résolution et il y a la transformation. La prévention, c'est faire tout ce qu'il faut en utilisant tous ces mécanismes-là pour que le conflit n'éclate pas, qu'il ne quitte pas son état de latence. Parce qu'il est toujours là, le conflit, mais...
Il est toujours latent.
Il est toujours là, latent, mais il faut l'aider à demeurer toujours
latent.
Là, vous faites de la prévention. Et si vous ne pouvez... Si, par exemple, là, tout ce que vous avez fait pour le maintenir dans l'état latent n'a pas réussi, ça vous a dépassé, ça éclate, alors vous pouvez soit le gérer, soit le résoudre. Le gérer signifie... Vous déployez tous les efforts, tous les mécanismes pour que il ne puisse pas détruire vos relations entre vous, vos biens, vos identités, etc. Ça ne soit pas détruit. Vous faites de la gestion du conflit. Donc il est avec vous ce conflit-là pour toujours peut-être, mais vous ne pouvez pas le résoudre. Et le résoudre, c'est quoi? C'est-à-dire, vous cherchez ses sources, vous cherchez ses origines. Et vous commencez à utiliser chacune de ces origines-là, chacune de ces sources-là, comme opportunité de développement entre les deux
communautés. Par exemple, si deux communautés sont en conflit à cause de la gestion des terres.
Voilà.
Les terres pour l'agriculture ou pour autres travaux. Comment est-ce qu'on peut transformer cela en opportunité de développement profitable aux deux communautés?
Rappelle-toi, ça ne sera pas seulement à cause des terres que le conflit sera là. Je vous ai dit que le conflit a plusieurs facteurs.
Il y a plusieurs facteurs.
Donc, il faut essayer de les identifier toutes avant de dire, voici l'élément, nous commençons par ici, nous commençons par là. Donc, ne croyez pas que seulement le fait qu'ils sont en difficulté parce qu'il y a transhumance, comme on dit, les bêtes de telle
est venue, sont venues là-bas. Détruisent les
champs. Ce n'est pas tout. L'identité vient aussi... C'est greffé à ça.
Des conflits identitaires.
Comme celui qui disait, le fait seulement d'être appelé Kassai, ça lui fait mal.
Oui.
Pourtant, bon, je me rappelle, ici à Kinshasa, être appelé Mouyaka était un problème. Mais, il y a eu un moment où un musicien, le grand Mouyaka, comme on l'appelait, était fier de se faire appeler Mouyaka.
Mouyaka.
Cela a été tellement banalisé qu'aujourd'hui...
On peut l'appeler Mouyaka.
Non, d'ailleurs, ils se disent Ganaza Mouyaka.
Voilà.
Donc, il faut trouver des mécanismes qui s'adressent justement au cœur des gens d'abord, ensuite à leurs besoins, ainsi de suite, on va y arriver. Et la transformation du conflit, c'est justement commencer à faire cette liste-là pour dire... Ce conflit a tel facteur, tel facteur, tel facteur, tel facteur. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour changer les paradigmes de ces facteurs, de tels facteurs? On y va progressivement comme ça et on va arriver à une situation qui était envenimante dans le passé, mais qui va devenir une opportunité de développement pour l'avenir.
Je reviens sur ce que vous avez dit, par exemple, le conflit identitaire, là.
Oui.
Vous allez, par exemple, au sud Kivu, vous avez les Bavu, vous avez les Bafuliro, les Banyamuleng et tout ça.
Oui.
Il y a toujours des les conflits est toujours latent de ce côté-là.
C'est la même chose, par exemple, dans le sud Kivu. Dans l'ancien temps, lorsqu'on appelait un mushi Munyabungo, ça faisait la bagarre.
Qu'est-ce que ça veut dire Munyabungo?
Ah ben, c'était tout simplement pour se moquer d'eux.
Se moquer d'eux.
Oui. Mais aujourd'hui, mais les Banyabungo eux-mêmes n'ont plus un problème pour ça. Moi, je suis Bungs.
Ok.
Ah oui, c'est devenu normal. Et comment c'est arrivé? Bon, je ne sais pas comment exactement, mais...
On se moquait beaucoup de ces tribus.
Exact, exact. Maintenant, c'est devenu une situation où, bah, écoutez, c'est parti, et c'est, on vit ensemble comme voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, on
banalise.
C'est banalisé.
Oui.
Mais comment on arrive à la banalisation? Il y a tout un processus qu'il faut mettre en place pour que les communautés qui grandissent progressivement intègrent cette réalité-là et on y met tout ce qu'il faut pour que, avec l'éducation, avec je ne sais pas quel autre mécanisme, ça devient une situation de progrès plutôt que ce soit une situation de destruction. Et je dois également souligner que les conflits ne sont pas toujours destructifs. Des conflits participe au développement également.
Comment?
Ah oui, mais parce que, bon, je donne un exemple un peu, ça peut être cynique pour ceux qui sont dans les conflits, mais c'est aussi une réalité. Quand vous prenez le Nord Kivu aujourd'hui, et le Kwilu ou le Maïndombe, comparez lequel de ces deux provinces, ou ces trois provinces, est avancé. Je pense que c'est le Nord Kivu.
Oui.
Or, le Nord Kivu est le siège de tout ce que nous avons aujourd'hui, des conflits.
Des conflits depuis plus de 20 ans.
Voilà.
Oui.
Mais, depuis plus de 20 ans, le Nord Kivu a trois villes qui se développent, qui se sont développées, Goma, Butembo et Beni. Je ne sais pas si le Kwilu a des villes de ce type-là. Donc, vous voyez...
Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'activités économiques dans la région.
Exact. Donc là, vous ne pouvez pas convaincre à quelqu'un qui profite de ces conflits-là que ces conflits-là sont mauvais. Pour lui, ces conflits sont une nécessité. Vous comprenez? Et ça contribue à l'essor de la région, d'une manière ou d'une autre. Mais là où moi je ne suis pas d'accord avec eux, c'est de dire, est-ce que c'est seulement par la guerre ou par les conflits que les sorts peuvent venir. Voilà.
C'est la grande question.
Voilà. Et donc, on peut le faire de manière pacifique.
Sans la guerre.
Et c'est pour cela que les mécanismes de résolution des conflits sont là, comme il y en a déjà eu un qui les a cités. Donc, vous avez l'élément le dénominateur commun de tous les mécanismes de résolution pacifique des conflits ou de gestion de conflits ou de transformation de conflits ou de prévention de conflits. L'élément, le dénominateur commun, c'est le dialogue.
C'est le dialogue. Il faut commencer par dialoguer.
Les dialogues et les dénominateurs communs, ils se retrouvent dans tous les mécanismes.
Alors, Jonas a demandé depuis Kananga, pourquoi on n'a pas pu gérer les conflits de Kamuina-Sapu et puis ça a éclaté, il y a eu beaucoup de dégâts par la suite.
Voilà, moi je suis spécialiste en la matière. Je suis parmi les trois Congolais qui ont un doctorat en analyse et résolution de conflits. Lorsque ces conflits-là sont là, on ne fait pas nécessairement
appel aux experts.
Non. C'est parfois, ça devient du business politique. Et ce qui se passe dans ces régions-là, c'est du business politique, pour la plupart des fois. Et ce sont les acteurs politiques qui font perdurer les conflits, chacun selon ses intérêts. Alors, à ce moment-là, le conflit va perdurer pour autant que ces acteurs politiques veulent qu'ils puissent continuer à avoir de l'influence, que l'on puisse continuer à les chercher pour les résoudre. C'est le cas partout dans notre pays, que ce soit du côté du Sud Kivu, du Nord Kivu, de l'Ituri ou du Kassai.
Même dans les Tanganyika, il y avait un moment de conflit entre les Twa et les Bantous.
Et là, il faut rectifier d'abord. Quand vous dites conflit entre les Twa et les Bantous, c'est comme si les conflits avaient nécessairement...
Un conflit identitaire.
Identitaire, non. Il y a des dimensions économique, l'identité vient se greffer à ça comme élément de mobilisation. Il y a d'abord, et quand on dit le toit et les bantous, je ne suis pas totalement d'accord.
Qu'est-ce qu'il faut dire, professeur?
Il faut regarder qui sont en conflit. Est-ce que ce n'est pas Luba et toi, ou ce n'est pas... Quand vous dites tous les bantous, moi je suis bantou, mais est-ce que je suis en conflit avec les toits?
Non.
Alors, vous me mettez dans un conflit alors que je n'y suis pas. Alors, donc, il faut toujours aussi savoir comment vous appelez un conflit pour ne pas continuer à lui donner de la matière. Vous êtes en train... L'élément identitaire, souvent, c'est un facteur de conflit réel, mais c'est aussi un facteur de mobilisation de la solidarité. Donc, quand j'écris, vous voyez, celui-là, il vient nous attaquer,
nous les tous, tuer, voilà. Tout ça, voilà.
Tous les autres qui me ressemblent vont dire, ah. C'est comme ça.
On doit
tous
se défendre.
Se mettre derrière et puis c'est parti. Donc, il y a nécessité de toujours analyser un tout petit peu, même si l'analyse est assez technique, analyser un tout petit peu et éviter de dire ça c'est le conflit entre Banya ceci et Banya cela. Il faut vraiment que...
Il faut éviter de globaliser.
Voilà.
D'accord. Merci, professeur. Je reviens à vous dans quelques instants. Nous parlons des mécanismes des résolutions pacifiques des conflits avec le professeur Nopes Kibiswa, docteur en analyse et résolution pacifique des conflits. Glody, vous êtes à Bandounouville. Freddy nous appelle de Kisangani. On commence avec vous, Glody. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de Radio de la Paix.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, merci beaucoup. Le sujet d'aujourd'hui est vraiment très super. J'aimerais poser la question à monsieur l'invité. Il est professeur d'université. Il est chercheur. Je sais bien qu'avec cette thématique, il peut donner les pistes de solutions concrètes pour éradiquer ces phénomènes. Pour la première question, j'ai besoin de savoir. Il y a la différence entre rancune et conflit. Ça, c'est d'abord la première question. Et la seconde chose, j'ai voulu faire un petit témoignage et c'est aussi une question à partir de ces témoignages-là. Parce qu'ici, dans la ville de Bandundu, par exemple, vous pouvez voir les jeunes du quartier Y et les jeunes du quartier X ne peuvent pas entrer dans les quartiers Y. Alors, ça se fait actuellement ici, alors je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer ces problèmes-là? Lui, en tant que chercheur, qu'est-ce qu'il peut dire par rapport à ces gens-là? Ça, c'est de un. De deux, il y a aussi des conflits de groupements, des conflits de terres. Par exemple, vous pouvez voir quelqu'un de même famille, de même clan, de même tribu, il se fait... des conflits à cause du pouvoir, du groupement, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là pour éradiquer ces conflits et pour éviter aussi ces problèmes, pour éviter aussi ces problèmes-là, pour qu'on puisse avoir de pareilles situations? C'est ça que j'ai voulu poser comme ces trois questions.
Merci,
si
Glody.
Le professeur peut m'éclaircir par rapport à ça.
Merci, Freddy. Pardon, Glody de Bandundu, Bandunduville. On va accueillir Freddy de Kisangani et ensuite un autre Freddy à Bounia. On commence par le Freddy de Kisangani. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité. Moi, je suis à Kisangani. Alors, je vais ici profiter de votre... thématique ici devant votre invité, de me prodiguer des conseils dans mon quartier ici depuis que je me suis procuré d'une d'une belle voiture. Voilà, aujourd'hui, mes voisins, les amis, ils vont créer un conflit. Vraiment, je ne sais pas comment gérer ça. Je profite de votre invité.
D'accord.
Mais prodiguer des conseils. Comment je peux gérer ce conflit? Voir même mes enfants tombent de victimes. Souvent, on a empoisonné ma petite fillette.
Oh là là.
À cause de ce que j'ai eu comme voiture. Donc, je ne sais pas comment faire. Avec les voisins, les camarades.
C'est quelle marque de voiture que vous avez acheté, Freddy?
Oui, c'est RAV4.
D'accord, il a acheté une RAV4 et ça lui crée des conflits dans le quartier. Merci. Freddy, vous êtes à un autre. On va prendre un autre Freddy depuis Bounia. Bonjour.
Bonjour, je vous appelle à partir de Bounia. Je voulais demander si je voulais connaître la différence ou la définition d'un conflit parce que je ne peux pas au début, je suis venu un peu à retard. Tu peux me donner la définition d'un conflit, comment déterminer un conflit, compte tenu de ce qui s'est passé chez nous, chez Ntouri, parfois, on voit c'est un conflit, on peut définir ça comme un conflit, parfois, on dit, les conflits, c'est entre deux ethnies, mais ce qui s'est passé chez nous, sont des groupes qui se nomment à Kadeko, des choses pareilles, qui veulent s'attacher aux autres, et ça aussi, on peut appeler un conflit, ou ce sont déjà actifs. Il faut
après
demander leurs intérêts.
D'accord,
c'est ça les questions que je voulais demander.
Merci Freddy
Debounia.
Professeur
Anopes. Oui, d'abord je voudrais préciser qu'il y a une différence entre un conflit et une violence. Un conflit, comme il l'a demandé, c'est tout désaccord, toute contradiction, toute mésentente qui peut aller jusqu'à une lutte, une confrontation. Et lorsque ça atteint le niveau de confrontation violente, eh bien, ça quitte le concept conflit simple, ça devient une violence. Et la violence, c'est l'usage de la force pour régler un conflit. Donc, usage de la force pour régler un conflit.
Mmh.
Donc, le conflit est d'abord là, ensuite, il peut évoluer vers une violence, une guerre. Donc il faudra qu'il donc toute divergence.
Je voudrais savoir aussi, Glody demande, on veut savoir la différence entre une rancune et le conflit.
J'y vais. Mmh. Alors il peut, et j'insiste, les conflits peuvent être perçus, il peut être l'objet d'une perception seulement. Le fait seulement, un préjugé peut être à la base d'un conflit. Mmh. Je sais tout simplement que moi, je suis Kassai, comme pour prendre les... Je suis du Kassai.
Mmh.
Et le fait seulement que celui qui est devant moi, il n'est pas... Il est peut-être Musanga, pour parler d'une tribu du Haut-Katanga. Je peux déjà me mettre en tête que lui et moi, nous sommes en conflit. Donc ce conflit-là, il peut... Le Musanga peut ne pas avoir vraiment un conflit avec
le Kassai, à cause des préjugés.
Il y a un préjugé dans la tête qui fait que les deux commencent à se regarder déjà avec méfiance. Et cette méfiance-là peut finalement dégénérer par un petit geste non contrôlé, la bagarre commence. Donc, les conflits peuvent être perçus ou réels. Ils peuvent être conscients ou inconscients. Les conflits, tout conflit n'est pas une violence. La violence, c'est l'usage de la force pour régler un conflit. Voilà.
Mm.
Pour être simple, c'est comme ça. Alors, la rancune pour et la jalousie pour l'autre. Il y en a qui a parlé, celui qui a parlé de la rancune.
Mm.
L'autre a parlé de la jalousie sans le citer. C'est-à-dire, il a acheté un véhicule et ça lui cause du tort. Ça lui pose problème. C'est la jalousie.
C'est la jalousie.
Ce sont des sentiments internes
qui peuvent conduire qui sont à des
sources,
conflits.
Voilà.
Sources des conflits.
Qui sont sources des conflits. Alors, c'est dans l'analyse que vous allez localiser en disant le conflit qu'il y a là-bas, la divergence que l'on observe là-bas, a comme source la jalousie, un sentiment qui est caché et qui produit des actions, des attitudes.
Alors, Freddy a besoin de vos conseils. Comment on peut gérer cette situation?
Merci beaucoup. Le conseil le plus important, c'est quelle est son attitude, lui, vis-à-vis des autres. Le fait que vous avez acquis un bien que tout le monde convoite, les autres là, qui n'ont pas la possibilité de l'avoir, vont développer de la jalousie à cause de ce qu'ils ont dans leur cœur.
Mmh.
Mais si vous avez une attitude positive, par exemple, vous pouvez avoir l'habitude de... Bon, quand vous quittez votre quartier, ben vous pouvez prendre
les voisins.
Évidemment, il faut que les voisins aussi le manifestent. S'ils ne le manifestent pas, parfois c'est difficile. Mais avant cela, vous pouvez vous-même sortir pour essayer de parler avec eux, vous montrer simple, vous montrer abordable, vous montrer... C'est la première chose. Ce sont les attitudes d'abord. Est-ce que vous répondez par vos attitudes à leur jalousie, par ce qui est positif, à leur sentiment, c'est-à-dire est-ce que vous leur répondez aussi avec la hauteur, la condescendance? Donc c'est la première, c'est la seule chose que je peux le conseiller. Il y en a plusieurs. C'est difficile pour moi. Il faut être dans la situation, connaître tous les éléments pour être. Mais la première chose, c'est essayer d'être humble, d'être abordable, d'approcher dans la mesure du possible. S'il y a un voisin qui a besoin de tes services, donnez-le lui, ainsi de suite.
Voilà, professeur, vous avez dit qu'il y a plusieurs mécanismes de résolution pacifique des conflits. On a la prévention, on a la gestion, la résolution et la transformation. Est-ce que vous avez expliqué déjà la gestion et la transformation?
Oui, pas encore, peut-être que... mais ça, ce ne sont pas des mécanismes. Ce sont des traitements des conflits.
D'accord.
Ce sont des traitements de conflits. Il y a donc les mécanismes par lesquels on transforme, on gère, on résout ou on prévient. C'est le dialogue qui est l'élément, le dénominateur commun. Ensuite, il y a la négociation. La négociation, il y a la médiation. Et il y a aussi l'arbitrage. Alors, la différence entre ces différents mécanismes, c'est que le dialogue n'est pas vraiment un mécanisme en soi, mais il est un élément qui est dans tous les mécanismes. Ce n'est pas les dialogues. Les dialogues, c'est cet entretien entre les personnes. Ils se parlent entre eux, cet échange entre les personnes. Et on les fait, que ce soit dans la négociation, dans la médiation.
Soit dans l'arbitrage.
Dans l'arbitrage.
Il faut dialoguer.
Il y a les dialogues.
Oui.
Maintenant, à quel moment on parle de négociation? C'est lorsque les personnes ou les groupes ou les États ou les civilisations se parlent directement, sans intermédiaire. Là, on parle de négociation. Mais on parle de médiation lorsqu'il y a une tierce personne, une tierce partie qui intervient entre les parties qui sont en conflit, qui sont divergentes, pour les aider à s'entendre, pour les aider à parler. Pourquoi? Parce que soit s'ils se rencontrent, ils vont se boxer, soit parce qu'ils ont juré de ne jamais se rencontrer.
Oui.
Alors il y a quelqu'un qui intervient comme tierce partie. Et il y a aussi un élément dans la forme de médiation, c'est l'entremite. L'entremite,
qu'est-ce que cela veut dire?
L'entremite, c'est ce dialogue qui se fait à travers une tierce partie, mais qui lui fait des va-et-vient entre les deux parties.
Pour trouver un rapprochement, intérêt d'entente.
Pour trouver des rapprochements,
oui.
L'entremite peut être une voie vers une médiation formelle où, tout simplement, comme les partis disent, nous ne pouvons pas nous rencontrer, parce que si nous nous rencontrons, c'est la bagarre, ou bien ils vivent à distance, mais ils ont la volonté de se parler, ils ne peuvent pas se rencontrer, l'entremetteur fait des va-et-vient. Alors, ça, ce sont des formes. Alors, la différence entre l'arbitrage et la médiation... dans l'arbitrage, l'arbitre décide. L'arbitre va donner une direction à suivre. Alors que le médiateur, lui, n'a pas le pouvoir de décider. Le pouvoir de décider se trouve entre les deux parties et qui peuvent lui reconnaître le droit de leur proposer quelques solutions quand c'est nécessaire. Mais la différence entre l'arbitrage et la médiation, c'est que l'arbitre décide. Et le médiateur ne décide pas. Il aide les parties à trouver les solutions mutuellement avantageuses. J'insiste sur cet aspect-là. Solutions mutuellement avantageuses. Pas des solutions qui font que l'une des parties est désavantagée par rapport à l'autre. Vous êtes en train de replanter d'autres racines.
D'autres gens de conflit.
Voilà.
On va accueillir les deux derniers auditeurs, Malonga de Bandonville et Crispin Kambaï de Kikwit. Malonga, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à notre invité, le professeur.
Quelle est votre question?
Bon, je dis, en tout cas, tout ce que le professeur vient de soulever là, c'est bon. On le fait. On se force d'être humble par rapport à notre voisinage, de s'adapter au rythme de la société. Mais il y a le conflit qui s'impose, à la vie. Par exemple, ici aujourd'hui, je dis, c'est que moi, je suis en train de vivre actuellement. J'ai mon petit frère qui reste chez moi. Alors, il y a une entente entre lui et sa sœur. Alors, il s'est décidé d'aller dormir aussi à une autre sœur de la ville ici. Bon, en passant la nuit là-bas, il avait décidé de ne pas dormir avec sa grande sœur, puisqu'il aime sa tante. Alors, il s'est éloigné là-bas. En passant la nuit là-bas, premier jour, bon, il a laissé quelque chose de là-bas. En rentrant, en voulant rentrer encore pour prendre les choses, il a décidé sur ce maison-là.
Oui.
Il a demandé la clé au propriétaire, à cette serre-là.
Oui, elle a refusé.
La clé. Oui. Rentré là-bas, il a ouvert, il a récupéré ses biens, il a fermé encore. En rentrant, la serre-là, la propriétaire de cette maison qui a passé la nuit, en rentrant ici, en quelle heure, elle a trouvé son téléviseur, son décodeur, et d'autres choses qu'il a dit que 50 000 étants dans les sacs de son enfant pour la préparation des gouvernements d'État a été volé. Et ce n'est pas l'autre qui a volé ça, c'est le petit frère. Ah, jusqu'aujourd'hui, ce petit est au milieu de la police. Il a été maltraité, s'il vous plaît. Vous voyez comment est-ce qu'entre nous et la terre là, le conflit s'est imposé. Nous lui demandons, est-ce qu'il y a des preuves qui a visuellement qui est ici? Est-ce qu'il y a des preuves qu'il a attrapé avec quelques listes de ces dieux? Non, c'est bien lui seulement, c'est bien lui. Ah, est-ce que c'est bien lui? Est-ce qu'on n'a pas
détruit,
on n'a pas pris par ton enfant? Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Vous voyez ce conflit-là? C'est indépendamment aussi de nous. Si
oui.
Le conflit reste éternellement là,
oui.
Alors qui sera responsable?
On dit d'ailleurs souvent.
Il y a d'autres conflits qui s'imposent.
Oui.
Soit aussi, aux manières.
Malonga. Malonga. Voilà, on dit aussi souvent que les linges sales se lavent en famille, donc c'est une affaire de famille. Professeur va tout de même répondre tout à l'heure. Merci d'avoir appelé. On va prendre les derniers auditeurs. Crispin Kambay de Kikwit, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les radiocratiques.
Quelle est votre question, Crispin?
Par rapport au sujet du jour, j'ai des préoccupations.
Oui, veuillez éteindre, diminuer le volume de la radio, vous allez suivre à partir du téléphone.
Ok, la première préoccupation, c'est est-ce que c'est l'État qui peut résoudre ou bien prendre des mécanismes pour résoudre les conflits ou bien la population? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, c'est lorsque les populations se rendent à la justice pour que l'État puisse les donner les mécanismes de rompre les conflits, l'État n'arrive pas à maîtriser ça. Donc, il va toujours prendre de l'argent de tous les deux côtés pour toujours lui dire « Non, venez dans telle date, on va résoudre votre conflit. » C'est ça qui était comme mes préoccupations. Merci.
Merci. Professeur Nopestivisso.
Je ne suis pas très sûr que j'ai compris la deuxième question, mais au moins, ce qu'il faut retenir, c'est que...
Il parle de la justice, vous allez à la justice, il y a la corruption de part et d'autre, et puis l'affaire, on vous dit, revenez demain, on va prononcer les verdicts.
Alors, donc...
Est-ce que cela n'entretient pas les conflits?
Oui, je voudrais d'abord faire la différence entre la résolution pacifique de conflits dont nous parlons, qui est un mécanisme sociologique, qui est une alternative à la justice moderne. La justice moderne qui, elle, est une justice répressive. Donc, on doit réprimer tout celui qui a posé un acte pénalement incorrect. Il faut le réprimer, le mettre en prison.
Oui.
Les mécanismes pour lesquels nous parlons, ce sont des mécanismes alternatifs à ce système-là. Alors, est-ce que c'est l'État ou la population qui doit résoudre ou gérer les conflits? Les deux. L'État a la charge d'abord d'éduquer la population, sa population, dès le bas âge. Il y a des communautés, des sociétés, dans, des nations dans lesquelles, à l'école primaire, à l'école secondaire, il y a des mécanismes de résolution pacifique des conflits qui sont intégrés dans les programmes.
Ou des mécanismes de construction de la,
de la paix
dans les esprits.
Exact. Depuis, nos familles. Mm. Alors, je voudrais là, pour peut-être dire quelque chose de, qui va peut-être choquer beaucoup de gens. Notre société est violente. Et cette violence-là, nous l'entretenons. Je vais donner deux exemples pour que les gens me comprennent. Lorsque vous prenez ce qu'on appelle théâtre de chez nous.
Ah, c'est toujours des querelles, théâtres, c'est toujours voilà, des problèmes, voilà, la bagarre
voilà,
à tout moment.
Voilà, les théâtres de chez nous
oui.
entretiennent des conflits, la manière de parler, la manière de s'adresser les paroles, les consorts.
C'est toujours des manières conflictuelles.
Il faut, si on peut d'abord commencer à revoir ce programme-là,
oui.
qui réunit régulièrement nos familles, autour des télévisions, et nous sommes en train de perpétuer ça. Un autre exemple, c'est mon ami Sai Sai. il apprend, parce que Sai Sai est devenu une référence pour les enfants, pour beaucoup de choses. Regardez sa manière de parler lorsqu'il fait la publicité.
Mais ça, c'est un comédien ici.
Il peut le faire de manière élégante.
Élégante.
Et ça va apprendre aux enfants de l'élégance plutôt que de l'agressivité. Et quand je prends avec son ami Essobé.
Professeur, vraiment... on n'a plus de temps. on est arrivé à la fin de l'émission.
Merci beaucoup.
On aura l'occasion de revenir là-dessus parce que le sujet était tellement captivant et intéressant.
Oui.
Je rappelle que vous êtes le professeur Nopes Kibiswa, docteur en analyse et résolution pacifique des conflits. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi
et
qui
à
vous
la
remercie.
Prochaine.
Merci.